À Douaumont, dans la Meuse, une tour de 46 mètres de haut domine des collines piquées de forêts verdoyantes. C'est la lanterne des morts, le point culminant d'un ossuaire où reposent les restes de 130 000 soldats tués pendant la bataille de Verdun. La première pierre de ce monument a été posée en 1920 par le maréchal Pétain, héros de Verdun, sauveur de la patrie pendant la boucherie de 14-18. 25 ans plus tard, Pétain devenait un traître, le chef de la France collaborationniste. Il incarnait à lui seul le régime de Vichy, cette France ayant pactisé avec Hitler, déporté des familles juives, torturé des opposants. Mais à Douaumont, au cœur de la campagne meusienne, les fantômes des poilus rôdent toujours, et ils sont têtus. Le 29 mai 66, 50 ans après la bataille, ces fantômes attendent qu'on honore leur mémoire. Le président Charles de Gaulle, réélu 2 mois plus tôt, est à l'ossuaire. Sur place, des ministres, des anciens combattants, la presse. Tous s'interrogent. L'ex-chef de la France libre va-t-il évoquer la mémoire du héros de Verdun, désormais honni ? Les micros et les caméras sont prêts. De Gaulle monte à la tribune. Le discours débute.
Si par malheur, en d'autres temps, en l'extrême hiver de sa vie, au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire qu'il avait acquise à Verdun 25 ans auparavant et qu'il garda en conduisant ensuite l'armée française à la victoire, ne saurait être contesté ni méconnu par la patrie.
Des bravos s'élèvent dans l'assistance. Quel hommage ! Si vibrant que les journalistes, embarrassés, couperont le nom de Pétain au montage. Au JT ce soir-là, les Français n'auront droit qu'à des périphrases. Mais l'affaire est entendue. C'est bien Pétain que le vieux De Gaulle a encensé avec emphase.
Deuxième épisode, Charles et Philippe Pétain.
Avait choisi la capitulation. La France.
C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Vive la France, libre.
Parjure et traître à la fois, a trahi sa patrie.
Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude.
Charles et De Gaulle. Ça m'intéresse, histoire, vous raconte comment un homme seul est devenu le héros de la France libre.
Une question s'impose. Les deux hommes qui se sont rencontrés en 1912 n'ont-ils en réalité jamais cessé de s'admirer ? En fondant la France libre en 1940, De Gaulle a-t-il réellement rompu avec son ancien mentor ? Le journaliste et colonel de réserve Pierre Servant a travaillé sur la relation Pétain-De Gaulle.
Quand on rentre dans le détail, encore une fois, c'est shakespearien, c'est un drame shakespearien. Quand on rentre vraiment dans la matière, il y a à la fois une histoire humaine au départ qui est une séduction réciproque. Entre deux personnages, ce Pétain décèle dans le jeune De Gaulle, qu'il accueille en 1912 dans son régiment, le 33e régiment d'infanterie d'Arras, des qualités assez exceptionnelles. Donc il y a là une trame shakespearienne, dans le sens où elle est faite de rebondissements, d'histoires incroyables.
Et l'élève De Gaulle a-t-il poignardé son maître en 1940 ? Pour le savoir, remontons le fil de cette relation à haute tension. Octobre 1912, au 33e régiment d'infanterie d'Arras. Le sous-lieutenant De Gaulle, 22 ans, a un peu le trac. Il a revêtu son uniforme, enfilé son képi et ses gants blancs pour se présenter à son chef de corps, le colonel Philippe Pétain. À 56 ans, c'est un bel homme, au visage sévère, illuminé par un regard bleu acier. On échange quelques politesses, comme le veut la coutume, puis Pétain indique à De Gaulle la compagnie dans laquelle il va prendre son commandement de chef de section. Ce premier échange n'a rien d'un coup de foudre. Pétain est un colonel sur le départ. Comparé aux Saint-Cyriens de sa génération, il a eu une belle carrière, bien qu'un peu fade et sans éclat. Il aurait aimé terminer avec le grade de général, mais la promotion tant désirée n'est jamais venue. À quoi bon regretter ? Le colonel a déjà choisi son lieu de retraite. Dans quelques mois, il partira dans le midi de la France. De Gaulle, lui, est un bouillonnant patriote. Sorti 13e de sa promotion de Saint-Cyr, il rêve de mourir au combat, comme dans ses vers qu'il a écrits à l'âge de 17 ans. Quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit sur un champ de bataille, alors qu'on porte en soi l'âme encore tout enveloppée du tumulte enivrant que souffle le combat. De Gaulle est un jeune officier au physique impressionnant. Il mesure quasiment 2 mètres. Ses camarades de Saint-Cyr l'ont surnommé le connétable, mais aussi la grande asperge, double mètre ou encore saut en hauteur. C'est le rejeton remuant d'une famille de la petite aristocratie lilloise. Tout l'inverse de Pétain, né pauvre sous le Second Empire, dans une bourgade de 400 âmes du Pas-de-Calais. Le vieux colonel aime la vivacité du jeune Charles. Il lui met de bonnes notes semestrielles et souligne « Très intelligent, aime son métier avec passion, s'affirme dès le début comme un officier de réelle valeur qui donne les plus belles espérances pour l'avenir. » Et de Gaulle, que pense-t-il de son mentor ? Dès la deuxième page de ses mémoires de guerre, il note « Mon premier colonel, Pétain, me démontra ce que valent le don et l'art de commander. » Entre les deux soldats, l'estime est réciproque. 2 ans après cette rencontre, la Grande Guerre éclate. De Gaulle se lance à corps perdu dans la bataille. Il va pouvoir se battre jusqu'au sacrifice, comme dans ses poèmes d'adolescent. Mais l'aventure tourne court. Il est blessé le 15 août 14, puis une deuxième fois en mars 1915. Même s'il est décoré de la Croix de guerre et promu capitaine, De Gaulle est au désespoir. Avec tous ses chars et cette mécanique, avec ses no man's land et ses tranchées, cette guerre n'a décidément pas le panache des épopées napoléoniennes. Les Allemands s'enfoncent vite dans le nord de la France avant d'être stoppés. Le conflit s'enlise dans la boue. En juin 1915, Charles ronge son frein derrière la ligne de front. Pour Pétain, au contraire, cette guerre est une épiphanie. Bénédicte Vergès-Chaignon, docteur en histoire, spécialiste de Vichy.
Pour Philippe Pétain, la Première Guerre mondiale est un révélateur qui va transformer un officier à la carrière satisfaisante mais banale en une personnalité publique de premier plan et l'un des maréchaux vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Il sera le premier en 1915 à réussir la mythique et tant espérée percée sur le front, mais qui sera extrêmement éphémère. Il est appelé à la tête des troupes qui défendent Verdun en février 1916, et c'est là qu'en l'espace de quelques jours, il va acquérir une célébrité internationale et pas seulement française, qui le feront désigner tour à tour comme le défenseur de Verdun, le sauveur de Verdun et puis finalement le vainqueur de Verdun.
De Gaulle, lui, mord la poussière à Verdun. Le 2 mars, il est frappé d'un coup de baïonnette et s'écroule, inconscient. Quand il se réveille, il est à l'hôpital de Mayence, en Allemagne, prisonnier. En France, tout le monde le croit mort. Pétain insiste pour rédiger sa citation à l'ordre de l'armée le 7 mars 1916. Il déplore « Le capitaine de Gaulle, réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale, est tombé dans la mêlée. » Mais de Gaulle est bien vivant. Enrageant d'être privé de combat, il va même tenter 5 fois de s'évader d'Allemagne. Mais sa haute taille lui vaudra toujours d'être remarqué, puis rattrapé. Pendant que le fugitif croupit dans la cellule ténébreuse des récidivistes, Pétain prend la lumière. En 1917, les mutineries se multiplient. Des poilus, la crosse en l'air, refusent le combat. Pétain est appelé pour relever le moral des troupes en tant que général en chef de l'armée. Il organise des alternances pour que les combattants se reposent.
Il s'illustre par une stratégie très prudente de préparation soigneuse d'offensives limitées. Il y acquiert la réputation d'être économe des vies des soldats. Il ne faut pas voir là des raisons humanitaires, mais un calcul tactique bien mené, c'est-à-dire qu'il considère que s'il n'y a plus de soldats en vie et valides, il n'y aura plus d'armée et donc il n'y aura pas de victoire. Mais néanmoins, pour les intéressés, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être respectés en tant que combattants et en tant qu'hommes.
Quelques mois plus tard, en novembre 18, la France et ses alliés remportent la victoire. Pétain est devenu une vedette internationale, le sauveur, le général des poilus. Le voilà nommé maréchal de France à Metz, en Lorraine. L'ex-futur retraité prend sa revanche sur une institution militaire qui le méprisait. Bénédicte Vergès-Chaignon.
C'est lui qui, parmi les maréchaux, va être choisi pour rester à la tête de l'armée française jusqu'en 1931 quand même. Donc un règne, un commandement très long.
Voici venu le règne de Pétain. Dans l'entre-deux-guerres, rien dans le domaine militaire ne se fait sans le maréchal. De Gaulle, comme les autres jeunes officiers, le sait bien. Il entre en 1922 sur concours à l'école de guerre. Il y est bien noté, mais avec des appréciations assassines. Officier intelligent, cultivé et sérieux, gâte malheureusement d'incontestables qualités par son assurance excessive, sa rigueur pour les opinions des autres et son attitude de roi en exil. En toute logique, De Gaulle sort de l'école de guerre avec un grade peu élevé. Heureusement, il a un allié de poids en la personne de Pétain. Le maréchal crie à l'injustice. Bénédicte Vergès-Chaignon.
Le maréchal Pétain, à qui on ne refuse rien, va lui donner un sérieux coup de pouce en demandant que ses notes soient améliorées, car il veut intégrer Charles de Gaulle à son état-major particulier pour en faire son officier de plume.
Pourquoi le sauveur protège-t-il ainsi le connétable ? Certains ont cru déceler une relation père-fils, Pétain n'ayant pas eu d'enfant. Pour ses commentateurs, le clash des années 40 serait l'aboutissement d'une relation quasi fusionnelle menant au désastre, le jeune de Gaulle finissant par poignarder son mentor en 40, comme Brutus avec César. La réalité est plus prosaïque. Pétain court les honneurs. Il a intégré de Gaulle à son cabinet pour en faire son nègre. Il rédigera à sa place une somme intitulée « Le soldat à travers les âges ». Ce livre, pense le maréchal, l'aidera à entrer à l'Académie française parmi les immortels. De Gaulle est donc intégré au staff de Pétain comme officier de plume.
C'est un poste très particulier qui induit entre eux des rapports professionnels assez particuliers aussi, puisque au fond ils se fondent beaucoup sur des échanges intellectuels et sur de la confiance, bien sûr, puisque ce livre, c'est le maréchal Pétain qui sera supposé le signer, mais où l'on n'oublie pas quand même la relation hiérarchique entre les deux hommes. Il y a quand même une grande distance entre un capitaine ou un chef de bataillon et un maréchal de France, qui plus est à la tête de l'armée. Donc ce sont de bons rapports professionnels, doublés de rapports personnels qui ne sont pas intimes, mais qui sont chaleureux et qui sont marqués par des invitations au restaurant ou chez le maréchal Pétain avec d'autres officiers.
Le livre de Pétain ne sera finalement jamais terminé, ce qui n'empêche pas le maréchal d'entrer à l'Académie en 1929. Entre-temps, De Gaulle s'est rendu compte que le sauveur n'est pas à la hauteur de sa réputation. Dès 1925, il le trouve fatigué et défaillant. Pierre Servent.
De Gaulle va se rendre compte que cet homme qui a un physique incroyable, aujourd'hui on dirait qu'il est télégénique, qu'il serait sur tous les plateaux de télé, etc. Cet homme est né en 1856. C'est-à-dire qu'en 1940, quand il arrive au pouvoir, il a 84 ans. À une époque où un homme entre 50 et 60, c'est déjà un homme âgé. Bon. Et De Gaulle va voir à cette époque-là les failles, les défaillances psychologiques, intellectuelles, le début des défaillances de Pétain. Et donc De Gaulle a cette formule, j'ai vu chez lui le désintérêt sénile de tout et l'ambition sénile de tout.
Or, à 35 ans, De Gaulle a beaucoup d'ambition et n'entend pas croupir aux côtés d'un vieillard. En plus du cabinet de Pétain, il fréquente le cercle du colonel Mayer, un ancien officier mis sur la touche après l'affaire Dreyfus pour avoir pris la défense du capitaine juif victime d'une machination judiciaire. Tous les dimanches matins, le septuagénaire réunit dans son appartement parisien des journalistes, des écrivains, des militaires, des politiques. De Gaulle y a ses entrées. Dans le salon ovale envahi par la fumée des cigarettes, Charles discute librement. Il noue des liens avec l'avocat Jean Auburtin, qui a des contacts en politique, et Lucien Nachin, un éditeur. Un petit noyau d'admirateurs commence à se grouper autour de lui. Le jeune militaire sent qu'il a de moins en moins besoin de Pétain, qu'il surnomme avec mépris l'impérator. Et l'inverse est vrai. En février 1934, Pétain est nommé ministre de la guerre dans le nouveau gouvernement d'Union nationale. Il ne prendra pas son ancien poulain dans son cabinet. À quoi bon d'ailleurs ? Les deux hommes n'ont pas du tout la même vision de la situation géopolitique et militaire de la France. De l'autre côté du Rhin, Hitler applique depuis 1933 un programme qu'il avait largement annoncé dans Mein Kampf, la mise en place d'un régime totalitaire, antisémite, violent, raciste, conquérant. Bien qu'Hitler ait fait interdire la traduction intégrale en français de son livre-programme, De Gaulle s'est procuré et a lu Mein Kampf. Il a très vite compris que la volonté du Führer était d'écraser la France. Une seule solution pour l'officier De Gaulle, réorganiser l'armée française d'urgence. Il publie en 1934 « Vers l'armée de métier », un manifeste dans lequel il propose de moderniser l'armée en créant notamment 6 divisions de chars lourds. Hélas, en France, son livre ne se vend qu'à 1500 exemplaires. En revanche, il est très remarqué en Allemagne. À Berchtesgaden, dans son Nid d'Aigle, Hitler a lu et annoté une traduction allemande du livre de De Gaulle. L'exemplaire personnel du Führer a même été retrouvé en 1945 par les troupes françaises de libération. Le général Guderian se serait même inspiré des idées de De Gaulle pour mener l'attaque de la France en 1940. Et en effet, avec ses blindés et ses avions, l'Allemagne nazie terrasse la Pologne en septembre 1939. La Grande-Bretagne et la France entrent en guerre. Le colonel De Gaulle est de plus en plus fébrile. En novembre 1939, il envoie une note alarmiste à l'état-major. La note atterrit sur le bureau du numéro 2 de l'armée. « Intéressant », écrit ce dernier, « mais la construction n'est pas à la hauteur de la critique. Faire étudier. » De Gaulle ne désarme pas. En janvier 1940, il envoie un mémorandum à des responsables militaires et politiques pour les alerter sur la supériorité mécanique des Allemands. Résultat, silence radio. Et que dit Pétain, le chef adulé, au même moment ? Que la France est prête et qu'elle tiendra bon derrière sa ligne Maginot, réputée infranchissable aux chars.
La Première Guerre mondiale n'a rien changé à ses positions. Il considère que l'Allemagne est l'ennemi héréditaire et une menace. Mais il n'a pas été du tout à même de comprendre que l'Allemagne nazie, elle est différente de la Prusse, de l'Allemagne éternelle, de l'Allemagne à laquelle il est habitué. Et c'est vrai qu'il ne prendra jamais en compte cette dimension très particulière de l'idéologie, du totalitarisme que représente l'Allemagne nazie.
Le 10 mai commence la bataille de France. En 3 jours, les chars allemands franchissent les Ardennes. La doctrine soutenue par Pétain et la majorité de l'establishment militaire s'avère désastreuse. Qu'à cela ne tienne, le 18 mai, le maréchal est nommé ministre d'État et vice-président du Conseil. Il a 84 ans. Pierre Servent.
On va chercher Pétain, qui est déjà un vieillard, pour le mettre au sein du gouvernement. C'est une relique sainte qui va apporter la victoire parce que c'est le dernier des grands maréchaux. Et donc, c'est ce que j'appelais le mythe de Saint-Sinatus. Et ça, alors, bon, la plupart des Français ne l'auraient pas formulé comme cela, mais il y avait cette idée que quand la France était dans une situation terrible, on allait chercher Pétain, qui ne demandait rien, ce qui est plus ou moins vrai, mais en tout cas, c'est ça qui est perçu.
Sur le terrain, son ancien poulain, De Gaulle, remporte 2 victoires, à Montcornet, puis à Abbeville. Des éclats modestes et temporaires, mais dans cette désastreuse bataille de France, les bonnes nouvelles sont si rares qu'elles valent à Charles de Gaulle d'être promu le 1er juin général de brigade à titre provisoire. Le 6 juin 1940, De Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre par le président du Conseil, Paul Reynaud. Pétain, vice-président du Conseil, s'indigne.
De Gaulle est non seulement vaniteux, mais ingrat. Il n'a guère d'amis dans l'armée, et ce n'est guère étonnant. Il donne l'impression de mépriser tout le monde. Le 14 juin, le gouvernement se réfugie à Bordeaux. Le président Reynaud actionne deux leviers à la fois. Pétain le défaitiste d'un côté, De Gaulle le belliqueux de l'autre. Il demande au jeune général de négocier avec Churchill le soutien des Britanniques en cas de poursuite des hostilités. Avant de décoller pour Londres, le soir du 14 juin, De Gaulle dîne à l'hôtel Splendide de Bordeaux. Pétain y est aussi. De Gaulle va le saluer. Le maréchal le reçoit froidement. Il me serra la main sans un mot. Jamais je ne le revis.
Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son
malheur. Le 17 juin 40, Pétain, nouveau président du Conseil, appelle les Français à cesser le combat. De Gaulle lui répond dans la foulée sur les ondes de la BBC en lançant son fameux appel du 18 juin. Le 22, l'armistice est signé en forêt de Rotonde, dans le wagon où avait été signé celui du 11 novembre 1918. L'Allemagne tient enfin sa revanche. Bénédicte Vergès-Chaignan.
L'idée du maréchal Pétain en étant très vite partisan de demander l'armistice, c'est de sauver la France. Car il est persuadé que si la défaite continue avec cette vitesse et cette ampleur, la France pourrait disparaître, y compris physiquement. C'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu difficile à concevoir pour nous, qui vient de son expérience de la Première Guerre mondiale et des départements qui ont été occupés car la ligne de front de 1914-1918 s'était fixée à l'intérieur de la France. Il ne faut pas oublier que Philippe Pétain est lui-même un homme du Pas-de-Calais. Hein. C'est un homme qui vient de ces zones qui ont été occupées pendant la Première Guerre mondiale. Il constate qu'il y a eu de très fortes pertes humaines en France pendant la Première Guerre mondiale, suivi d'une dépression démographique très forte. Et il pense que si la victoire allemande est encore plus complète, hein, quand il va demander l'armistice, n'oublions pas que les Allemands sont à Lyon, dans le sud-ouest, enfin, il ne reste pas grand-chose du territoire métropolitain français qui ne soit pas conquis à ce moment-là. Et il est absolument convaincu que c'est un sauvetage, au sens plein du terme, qu'il est en train d'effectuer en demandant l'armistice. Et d'ailleurs, les Français accueille la nomination du maréchal Pétain et son premier discours du 17 juin 1940 avec soulagement, avec tristesse sans doute, mais aussi avec reconnaissance.
Pas de ça pour De Gaulle. L'annonce de l'armistice suscite chez lui la colère, l'indignation, l'envie de révolte. Depuis Londres, il prend à nouveau la parole pour fustiger le vieux soldat.
Et c'est du même ton, monsieur le maréchal, que vous conviez la France livrée, la France pillée, la France asservie, à reprendre son labeur, à se refaire, à se relever. Mais dans quelle atmosphère? Par quels moyens? Au nom de quoi voulez-vous qu'elle se relève sous la botte allemande et l'escarpin italien?
Ce discours, d'une violence inouïe à l'encontre du vainqueur de Verdun, signe la rupture définitive avec Pétain. La France se jette dans les bras du vieux maréchal. Elle croit sur parole ce militaire aguerri qui affirme que les troupes d'Afrique ne sont pas assez entraînées pour résister à l'ennemi. Elle croit ce grand-père aux yeux d'acier qui leur parle de se remettre au travail pour assurer l'avenir du pays. Elle croit ce patriote qui, c'est sûr, sera un solide rempart face à l'occupant allemand. Et même si la France est occupée aux deux tiers, les Français écoutent aveuglément le vieux sage qui a trouvé refuge à Vichy. Le 10 juillet 1940, c'est dans le grand casino de cette ville thermale que le Parlement se réunit. Dans ce décor luxueux, la République va bientôt être mise à mort. L'Assemblée nationale va confier à Philippe Pétain les pleins pouvoirs. Un État autoritaire, liberticide et réactionnaire se met en place avec son nouveau programme, la Révolution nationale, et son nouveau mantra, travail, famille, patrie. Peu de Français écoutent les discours de l'exilé de Gaulle sur Radio Londres. On préfère suivre le vieux chef et certains pensent même qu'en réalité, Pétain joue un double jeu. C'est sûr, ce grand patriote germanophobe ne les livrera pas aux Boches. Il est sûrement en train de préparer la résistance. Quelques Français profondément maréchalistes vont même fonder des mouvements de résistance dès l'été 40, tout en restant fidèles à Pétain. Au premier temps de l'occupation, ils sont une petite centaine, souvent officiers de carrière, issus de la droite, conservateurs, anticommunistes, hostiles à la démocratie élective. On prête son château pour y cacher des armes, on monte des réseaux clandestins d'espionnage et des cellules de résistance au sein même de l'armée d'armistice. Mieux vaut Pétain que ce fuyard de De Gaulle. Parmi eux, Henri Freinet. En 1976, l'ancien résistant et ministre de la 4ème République évoque sa lente maturation pour couper les ponts avec Vichy en janvier 41.
Je suis fils d'officier, Saint-Cyrien, frère d'officier, Saint-Cyrien, moi-même, Saint-Cyrien, mon père, école de guerre, moi-même, école de guerre, bonne vieille bourgeoisie lyonnaise, catholique, pratiquante, le quartier d'Aîné, le sanctuaire de Lyon. Normalement, j'aurais dû en 1940 suivre Pétain aveuglément comme la quasi-totalité de ma famille l'a suivi. L'a suivi par devoir, par sens patriotique. Mais j'ai eu une chance. C'est que, auprès de Bertie Albrecht, avant la guerre, j'ai rencontré de nombreux réfugiés allemands fuyant le nazisme, des juifs et des pas-juifs. Et j'ai eu connaissance de ce qui se passait là-bas. C'était en définitive, pour la France, l'esclavage inévitable, si la défaite existait, un esclavage qu'on ne pouvait en aucune circonstance accepter.
Bénédicte Vergès-Chaignon a consacré un ouvrage à ces vichisto-résistants. Elle explique le cheminement de Freinet.
Parmi les premiers résistants à l'été 1940, en particulier en zone libre mais aussi en zone occupée, beaucoup pensent que le maréchal Pétain soit ne leur est pas hostile, soit pourrait vraiment même être favorable à leur cause. Henri Freinet se place délibérément dans ses écrits clandestins sous l'égide du maréchal Pétain, à la fois parce qu'il pense que ça va favoriser les recrutements au sein de son mouvement, mais aussi de façon plus désintéressée, parce qu'il est persuadé que le vainqueur de Verdun ne peut qu'approuver ses entreprises. Il appartient encore lui-même à l'armée d'armistice et il trouve sa démarche très cohérente, sa démarche clandestine très cohérente par rapport à ce qu'il vit dans son milieu professionnel. Et au fond, c'est d'abord l'impuissance administrative qui va lui mettre la puce à l'oreille et c'est simplement le retour de Pierre Laval à la tête du gouvernement en avril 1942, Pierre Laval associé pour lui à la collaboration active et à la soumission aux ordres allemands, qui va lui faire prononcer sa rupture avec le maréchal Pétain.
Des partisans de Vichy opposés à l'occupant, pendant longtemps cette idée a semblé incongrue, voire carrément scandaleuse. Il a fallu attendre le début des années 90, avec notamment la parution de l'ouvrage du journaliste Pierre Péan sur le passé vichiste de François Mitterrand, pour sortir du schéma manichéen. Soit on était résistant, soit on était vichiste. Pour certaines personnalités ambivalentes, on parle de vichisto-résistant. Mais pour l'heure, le traître, c'est De Gaulle. En août 40, la justice militaire le condamne à mort par contumace. Le 24 octobre 40, Pétain rencontre Hitler à Montoire, dans le Loir-et-Cher.
Pendant son séjour en France, le Führer a reçu M. Laval, ministre des Affaires étrangères, et le maréchal Pétain. Les honneurs militaires furent rendus aux deux hommes d'État français.
Il fait entrer la France dans la voie de la collaboration. Trois semaines plus tôt, Pétain avait édicté la première loi antisémite portant statut des Juifs, qui précise les professions interdites aux Juifs français. De Gaulle entend répondre. Le 15 novembre 40, il fait lire un message devant le Congrès juif mondial qui organise un meeting au Carnegie Hall de New York.
Soyez assurés que, comme nous avons rejeté tout ce qui a été faussement fait au nom de la France après le 23 juin, le décret cruel dirigé contre les juifs français ne peut avoir et n'aura aucune validité. Ces mesures n'en sont pas moins un coup porté à l'honneur de la France ainsi qu'une injustice contre ses citoyens juifs.
À Vichy, Pétain mène grand train. Alors que la France vit à l'heure du rationnement, le maréchal, gourmand et gros mangeur, ne conçoit pas un repas sans viande. Peu importe si à Vichy, les boucheries sont fermées 3 jours par semaine. La propagande le décrit comme un bourreau de travail, levé avant l'aube car il n'a besoin que de 4 heures de sommeil, frais et dispo pour attaquer la pile de dossiers qui l'attend chaque matin. En réalité, l'octogénaire ne se lève pas avant 8 heures, se fait masser ou prend un bain chaud et attaque sa journée de travail à 9h30. Bercé par sa propre propagande, il se persuade d'être un travailleur acharné, met un point d'honneur à inviter à sa table des hôtes de marque. Bénédicte Vergès-Chaignon.
Entre 1940 et 1944, le maréchal Pétain ne va jamais citer le nom de Gaulle dans ses discours. Il ne va jamais parler de gaulliste. Il y aura des allusions rares et peu explicites qui vont s'arrêter dès l'été 1941. D'ailleurs, par la suite, le maréchal Pétain parlera de dissidence. Le maréchal Pétain va se placer, je dirais, au-dessus de tout ça et ne pas faire la part belle au général de Gaulle, ce qui se comprend très très bien, je pense, en termes de propagande. Ce n'est pas à lui de faire la publicité d'un adversaire qui, dans un premier temps, paraît tellement mineur.
Et puis, il y a le 6 juin 44. Les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Libération pour les uns, cataclysme pour les autres. Le même jour, le maréchal Pétain est en visite à Saint-Étienne. Les actualités le montrent réconfortant les habitants meurtris par les bombardements ennemis, ceux des Alliés bien sûr.
Le pèlerinage douloureux se poursuit par la visite de Saint-Étienne, où le maréchal s'avance à pied parmi les décombres. Désolant spectacle, le quartier ouvrier n'est plus qu'une ruine déchiquetée. Le chef de l'État se mêle au groupe des sinistrés et devant leur effroyable misère, il trouve les mots qui touchent, les mots qui consolent. Place Fourneyron, le maréchal dépose une gerbe devant le monument aux morts. Enfin, c'est l'arrivée place de l'Hôtel de Ville.
Maréchal, nous voilà. Mais le maréchal, lui, où est-il vraiment? Depuis le 2 juin, De Gaulle dirige le gouvernement provisoire de la République française. Pétain sent le vent tourner. Il fait parvenir dans l'été à son adversaire un texte de réconciliation et de bienvenue à Paris. Refus de l'intéressé. De Gaulle, en lisant les textes que l'on m'a fait remettre de sa part, je me sens tout à la fois rehaussé dans ce qui fut toujours ma certitude et étreint d'une tristesse indicible. Monsieur le maréchal. Ce refus a fait couler beaucoup d'encre parmi les néo-pétainistes, ceux qui considèrent que De Gaulle a trahi le maréchal. Ils décrivent un vieillard encore épris de son fils spirituel, déçu de ne pas être reçu par lui. Bénédicte Vergès-Chaignon.
Les pétainistes et néo-pétainistes vont reprocher à De Gaulle d'avoir balayé cette offre, mais évidemment qu'il balaye cette offre. Il n'a pas l'intention de revenir sur sa condamnation fondamentale de l'armistice de 1940. Et donc, l'idée des pétainistes et des néo-pétainistes, c'est de dire, eh bien, par ce refus, De Gaulle a empêché la réconciliation française, il a empêché l'union de tous les Français, il a suscité l'épuration sanglante, il a retardé la reconstruction du pays, il a fait là un choix partisan qui en plus a ouvert la porte aux communistes.
Retour à l'été 44. Alors que les Alliés se rapprochent de Paris, Hitler exige d'opérer le transfert du chef de l'État, même contre sa volonté. Philippe Pétain feint de résister, mais il prend finalement la route de l'Allemagne. Le 8 septembre, il arrive au château de Sigmaringen. Pierre Laval le rejoint le lendemain dans cette propriété de 400 pièces. Fin septembre, des milliers de miliciens et d'intellectuels collabos se réfugient avec leurs familles dans la petite ville de Sigmaringen. L'écrivain Céline est de cela et voici ce qu'il décrit.
Vous vous diriez en opérette, le décor parfait, la ville si jolie, fignolée, rose, verte, un peu bonbon, demi-pistache. Le plus bluffant, le château, la pièce comme montée de la ville.
De Gaulle ressent-il de la pitié pour son ancien mentor ? En tout cas, dans cette ambiance crépusculaire, il manœuvre pour éviter un procès public à ce vieillard encombrant, comme il le confiera plus tard à son futur gendre, Alain de Boissieu. De Gaulle. Ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu sous cette forme si le maréchal avait accepté de demeurer en Suisse, comme je le lui avais fait proposer. Je m'étais engagé à lui fournir tous les collaborateurs et toute la documentation qu'il voudrait pour justifier son attitude en 1940 et ensuite au cas où il voudrait écrire sa défense. Le gouvernement suisse était d'accord pour l'héberger avec ses collaborateurs. Pétain refuse et se rend à la justice française.
Vous pouvez vous asseoir. Je donne la parole à Monsieur le greffier pour la lecture de l'acte d'accusation.
Pétain Henri-Philippe Benoni-Homer inculpé d'attentat contre la sûreté de l'État et d'intelligence avec l'ennemi.
À partir du 23 juillet 1945, le leader déchu comparaît devant la Haute Cour de justice pour trahison, intelligence avec l'ennemi et complot contre la République. De Gaulle, évidemment, ne mettra pas un pied à ce procès. Devant le palais de justice, des manifestants brandissent des banderoles hostiles au régime de Vichy. C'est la canicule à Paris, dans la salle d'audience, l'ambiance est électrique. Un jeune journaliste, Frédéric Potché, est au premier rang. En 1984, face aux caméras de la télé publique, il témoigne.
Introduisez l'accusé. Bon, alors, ça y est, il va entrer. On le voit comme si... Il n'est pas encore là, mais on est tendu, hein. Et il entre par la porte du fond. Je ne m'attendais pas à voir ça. J'ai vu un bonhomme qui m'a semblé très grand, qui était beau, un très beau vieillard. Il est entré sans crainte et sans hésitation.
Pétain ne fera qu'un seul discours ce jour-là, avant de se taire le reste de son procès.
De ce pouvoir, j'ai usé comme d'un bouclier pour protéger le peuple français. Pour lui, je suis allé jusqu'à sacrifier mon prestige. Je suis demeuré à la tête d'un pays sous l'occupation. Voudra-t-on comprendre la difficulté de gouverner dans de telles conditions ? Chaque jour, un poignard sur la gorge, je vais lutter contre les exigences de l'ennemi. L'histoire dira tout ce que je vous ai évité quand mes adversaires ne pensent qu'à me reprocher l'inévitable. L'occupation m'obligeait à ménager l'ennemi, mais je ne le ménageais que pour vous ménager vous-même, en attendant que le territoire soit libéré.
Ce discours est capital car il contient le mot « bouclier ». Il alimentera une théorie dite « du bouclier et de l'épée » née après la guerre. Ainsi, en 1950, Gilbert Renaud, alias Rémy, ex-résistant et ex-sympathisant de l'Action française, écrit-il un article dans lequel il défend l'idée que le bouclier Pétain, resté en France face aux Allemands, a joué un rôle aussi important que l'épée de Gaulle, partie en exil pour continuer le combat. Les milieux pétainistes évoquent même une entente secrète, suivie d'une trahison. Le maréchal aurait donc faussement collaboré avec les nazis.
Pendant que le général de Gaulle, hors de nos frontières, poursuivait la lutte, j'ai préparé les voies à la libération, conservant une France douloureuse, mais vivante. À quoi en effet eût-il servi de libérer des ruines et des cimetières ?
À la barre, les fantômes de la défunte Troisième République défilent. les anciens présidents du Conseil, Édouard Daladier, Paul Reynaud ou Léon Blum, évoquent l'armistice de juin 40 comme une trahison. Daladier termine par une phrase qui entre à Pétain jusqu'à sa mort.
Du maréchal Pétain, je dirais franchement, et bien que cela me soit pénible, qu'il a trahi son devoir de Français.
Le 15 août, trois mois après la signature de la capitulation, il est condamné à mort. Le 17, De Gaulle décide de commuer la sentence en réclusion à perpétuité. La Seconde Guerre mondiale est bel et bien finie. Comme elle s'était donnée à Pétain, la France se jette dans les bras de la résistance. Une attitude raillée par Henri Freinet, ex-pétainiste devenu l'un des premiers résistants de France, dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel en 1973.
Dans un film récent, on l'a bien vu, et je le savais d'ailleurs depuis longtemps, on a vu le maréchal Pétain venir à Paris en 1944 et recevoir à Notre-Dame un accueil enthousiaste. Et quelques mois plus tard à peine, le général de Gaulle recevait un accueil non moins enthousiaste et je ne jurerais pas que dans cette foule, ce n'étaient pas les mêmes.
À l'Île-Dieu, Pétain devient le plus encombrant prisonnier du monde, estime Bénédicte Vergès-Chaignon.
Qui va vivre jusqu'en 1951, c'est-à-dire jusqu'à 95 ans, dans un état de santé en particulier psychique puis physique, de plus en plus dégradé, ce qui fera que cette détention se transformera en fait en, je dirais, maison de retraite médicalisée personnelle au bon soin du service de santé militaire.
En septembre 1951, Pompidou annonce à De Gaulle que Pétain est mort. De Gaulle corrige « Oui, le maréchal est mort ». Traduction : De Gaulle conserve une tendresse pour l'homme de la Grande Guerre, pas pour le signataire de l'armistice. Lorsqu'en 1953, André-François Poncet, le successeur de Pétain à l'Académie, ressort en public la thèse du bouclier Pétain et de l'épée De Gaulle, celui-ci rétorque « Il était joli leur bouclier ». Il n'a pas empêché d'être occupé jusqu'au trognon, d'aller travailler en Allemagne, d'être déporté.
Dans le prochain épisode, nous verrons quelle fut l'influence d'Yvonne Vandroux, la future tante Yvonne des Français, sur son époux, et le rôle joué par les femmes dans la vie du jeune Charles de Gaulle. Ce podcast a été écrit par Cyrielle Lemoyne-Tolba, raconté par Cyril Azouvi et réalisé par Lucas Vibo. Merci à Jean-Clément Martin-Borella pour sa plongée dans les archives sonores.